Bonsoir Akira Mizubayashi.
Bonsoir.
C'est un grand honneur de vous recevoir à la librairie Mola. Et cette fois, vous êtes avec nous pour nous présenter Reine de cœur, qui est sortie aux éditions Gallimard. On retrouve beaucoup de vos thématiques fortes dans ce livre. Mmh. On en découvre d'autres. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est les thématiques du souvenir, du deuil impossible qui reste cristallisé par le souvenir. Mmh. Est-elle, selon vous, la colonne vertébrale de votre écriture ?
D'une certaine manière, oui. Ce qui me hante depuis toujours, je crois, c'est le souvenir de mon père qui a vécu cette guerre qu'on appelle la guerre de 15 ans, d'une manière extrêmement douloureuse. Et finalement, c'est devenu très très net depuis âme brisée. Je reviens toujours à cette espèce de source originaire pour raconter des histoires. Ce ne sont pas des histoires d'ordre autobiographique, mais il y a toujours au départ un motif qui est lié à ce souvenir. Le souvenir de la guerre que je n'ai pas vécu, mais que je vis par une sorte de procuration paternelle.
Est-ce que il vous avait laissé des écrits ?
Mon père ?
Oui.
Non.
Est-ce que vous avez, comme vos personnages, la possibilité aussi d'avoir des objets, enfin de pouvoir raconter l'histoire, pas seulement avec vos souvenirs ?
Alors, je répondrai à votre question en évoquant un souvenir très très précis de mon père qui me revient par la médiation d'une séquence cinématographique. Alors, à la fin de mon livre, Reine de cœur, il y a une page où je remercie un certain nombre de personnes. Et dans cette page, je cite un très grand film de Kobayashi Masaki qui s'intitule « La condition de l'homme ». C'est un film qui m'a marqué. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais étudiant. Mais il se trouve que je connaissais l'histoire de ce film parce que j'avais vu une version téléfilm bien des années auparavant en compagnie de mon père. Alors, c'est l'histoire d'un jeune japonais qui a fait des études supérieures. Je raconte très brièvement le contenu de ce film. Il est envoyé en Chine et puis c'est quelqu'un qui n'accepte pas cette guerre coloniale. Et donc c'est un révolté. Par le fait que c'est un révolté, il est maltraité. Quand il est envoyé à l'armée, il est maltraité, il est torturé, il a tout le temps des blessures sur le visage. Un jour, mon père nous a proposé, à moi et à mon frère, de suivre le feuilleton télévisé tiré du même roman, La condition de l'homme. À l'origine, c'est un roman, La condition de l'homme. Et Kobayashi Masaki en a fait une version cinématographique. Et puis, la génération de mon père a été très, très marquée quand même par cette guerre, il y a eu des initiatives comme ça. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un téléfilm avec d'autres acteurs et avec d'autres scénaristes. C'était un feuilleton, une fois par semaine, peut-être, quelque chose de ce genre. Et un jour, mon frère et moi, nous regardions un épisode en compagnie de notre père. Et à un moment donné, il y a une scène absolument terrible le personnage principal, donc Kaji, qui fait penser un peu à mon personnage principal, June. Voilà, il est brutalisé par des officiers, il est maltraité, il est torturé, il saigne de partout, etc. Et c'est une scène insoutenable. J'avais 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mon père nous a dit, à moi et à mon frère, « Regardez bien cette scène. » Et moi, j'étais un peu comme le personnage principal. Voilà. Et je m'en souviens très, très bien. Et je me souviens très bien de cette scène. Cet épisode m'est resté visuellement. Et finalement, je me demande si je ne reviens pas à cette scène, à ce souvenir originaire, en quelque sorte, quand, dans Âme brisée, quand je raconte dans le premier chapitre, le père du personnage principal, qui est professeur d'anglais, qui est violoniste amateur, et qui est brutalisé par un officier, et qui, en plus, détruit son violon. Voilà, mon père est présent à ce moment-là.
Alors, il l'est aussi dans ce livre-là. Oui, quand je vous entends raconter ce souvenir, puisque oui. June aussi, en fait, est parfaitement maltraitée.
C'est ça.
Et vous avez le sens de la description de la panique. C'est un livre à nouveau, et ce n'est pas le premier, très sensoriel.
Oui.
Puisque vous avez l'art de la description des odeurs, des sons, du goût, de la force, de l'état de panique du corps humain. Pas seulement pour June, mais aussi pour le personnage féminin qui vit une scène d'une grande violence. Et finalement, donc, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand votre père vous a dit ça devant cet extrait de cinéma? Est-ce que ça vous a, selon vous, suffisamment marqué physiquement pour le retranscrire de cette façon aujourd'hui?
C'est un épisode qui m'est revenu en force comme ça au moment où je me suis mise à écrire Âme brisée. C'est un souvenir enfoui en quelque sorte. C'était jamais oublié, mais je n'y pensais pas du tout tout le temps. Et c'est au moment de l'écriture d'Âme brisée que cette scène m'est revenue à l'esprit de façon très, prenante et un peu obsédante. Et je vis encore dans...
La sensation de ce souvenir?
Oui, c'est ça. Oui.
Qu'est-ce qui a déclenché ce souvenir? C'est une actualité qui génère des mouvements géopolitiques qui séparent toujours des familles, ou c'est votre écriture?
Alors, ce qui a déclenché mouvement, alors ça doit quand même le souvenir de mon père, parce qu'il est déjà présent dès mon premier livre, oui. Une langue venue d'ailleurs, et partout dans Mélodie, je parle de la vie et de la mort d'une chienne avec qui j'ai vécu 12 ans et 3 mois. Mais il y a un personnage derrière Mélodie, c'est mon père. Il y a, à un moment donné, les deux images se superposent. Donc mon père est toujours présent. Et je crois que c'est la constante de mon univers. Et il est revenu en force de cette façon-là, surtout depuis Âme brisée, de façon consciente. Alors, ça, je le dois à Jean-Marie Laclavotine.
Qui est votre éditeur?
C'est mon éditeur.
Qui est aussi auteur?
Oui, Et il est venu plusieurs fois ici.
Il est venu plusieurs fois ici, tout à fait.
Et Jean-Marie, c'était en septembre 2017. C'était après la publication de... Quelques mois après la publication de mon premier roman qui s'intitule Un amour de mille ans. Et j'étais encore professeur à Tokyo. Donc je devais rentrer pour commencer le deuxième semestre. Et je suis allé le voir dans son bureau de chez Gallimard pour lui dire au revoir. Et à ce moment-là, Jean-Marie m'a demandé si je ne voulais pas participer à un ouvrage collectif qu'il préparait à ce moment-là sur Armistice. Et je lui ai dit oui, comme ça, sans réfléchir sur ce que j'allais écrire. Donc, quelques jours après, je suis rentré à Tokyo, j'ai commencé à me documenter sur la Grande Guerre, etc. Et quand j'ai appris, au cours de ce petit travail de documentation, que le dernier soldat français tué s'appelait Augustin Trébuchon et que il avait été tué quelques minutes avant la cessation des combats. Pardon. Quand j'ai appris ça, il y a une expression japonaise très courante qui m'est venue à l'esprit. C'est vrai que ce n'était pas un mot français, c'est un mot, une expression japonaise qui veut dire à peu près ceci. Je meurs effectivement, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et c'est l'idée de fantôme qui est née ainsi, à ce moment-là, à ce moment très précis. J'ai vu, donc, qu'il était question de fantômes dans le texte que j'allais écrire sur la Grande Guerre pour Jean-Marie Laclavetine. Et à ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin d'aller à Hiroshima. C'était en décembre 2017. Et nous sommes allés avec mon épouse et moi, nous sommes allés à Hiroshima pour voir et revoir ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous savez, en août, le 6 août 1945, vers 8 heures du matin, une bombe atomique a éclaté. Et il faisait très beau ce jour-là. Et les gens ne s'attendaient absolument pas à cette catastrophe. Et après donc l'explosion, il y a eu plus de 160 000 morts dans l'instant. Et il y a certaines personnes qui ont laissé leur ombre sur le sol. Et c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Et certaines ombres ont été conservées parce que c'était sur du ciment. Et ça se trouve au musée d'Hiroshima. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai eu cette idée de mort inachevée, en quelque sorte, je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma mort, j'ai eu envie de voir ces ombres, encore une fois, et nous sommes partis à Hiroshima. Et c'est à Hiroshima que j'ai fini pratiquement ce texte que j'ai donné à Jean-Marie quelques jours après. Et c'est à Hiroshima que l'histoire que je raconte dans Un brisé est née presque subitement. Et voilà.
Vous avez été saisi de quelque chose à ce moment-là ?
Ben, c'est ce roman qui est venu à ma rencontre. C'est cette histoire-là. J'ai vu tout de suite qu'il s'agissait d'un violon brisé, détruit par un militaire. Et puis, le personnage principal, qui est un enfant de 11 ans au moment du drame, il passera presque toute sa vie à restaurer, à ressusciter, à réparer le violon de son père qu'il n'a jamais revu. Cette histoire, cette intrigue narrative, cette charpente narrative, je l'ai conçue presque instantanément. Et donc, je n'ai pas tellement souffert pour écrire, pour raconter cette histoire. Donc la première version a été faite assez rapidement. Et ça, c'est pour Âme brisée. Mais pour Reine de cœur, ça s'est passé différemment. C'était pas aussi instantané que ça. À la dernière page de Reine de cœur, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une page qui est consacrée à mes remerciements. Et je remercie en premier lieu une franco-japonaise qui s'appelle Danielle Laridan et sa demi-sœur qui s'appelle Sumiko Kurata. Pourquoi ? Parce que à l'origine de Reine de cœur, il y a un petit peu quand même l'histoire de ces deux personnes. Je raconte très brièvement l'histoire de ces deux personnes. Alors, c'est un peu comme Jun, mon personnage principal. Il y avait un jeune violoncelliste japonais, Monsieur Kurata, qui était présent à Paris dans les années 38-39, étudiant au conservatoire pour étudier le violoncelle sous la direction d'un très grand violoncelliste français de l'époque, Maurice Maréchal. Et c'était un étudiant très sérieux, il allait au conservatoire tous les jours, un peu comme Jun. Et il est tombé amoureux d'une Française. Elle aussi, elle était amoureuse de ce jeune violoncelliste. Mais à cause de la guerre de 15 ans, il a fallu que ce jeune violoncelliste, M. Kurata, rentre au Japon, à Tokyo. Donc, il a fallu qu'il se sépare de sa bien-aimée à Marseille. Donc, il a mis 40 jours, 45 jours pour rentrer au Japon. Et quand ils se sont séparés, la Française était enceinte. Quelques mois après, elle a mis au monde une petite fille qui est Danielle Laridan. Monsieur Kurata est rentré au Japon. Contrairement à mon personnage principal, il n'est pas allé en Chine. Il n'a pas fait la guerre. Il est mort assez rapidement à cause d'une maladie. Mais il avait épousé une Japonaise. Et de cette union est née une Japonaise, Sumiko Kurata, qui est devenue elle-même violoncelliste. Je connaissais cette histoire. J'avais rencontré Daniel peut-être il y a 10 ans. Je connaissais cette histoire. Mais cette histoire, le fait de connaître cette histoire n'était pas du tout suffisant pour que j'aie envie de raconter quelque chose de voilà qui s'inspire de cette histoire vraie. Ah, j'ajoute une chose. Ces deux demi-sœurs ont mis 50 ans pour se retrouver.
ce qui corse un peu le suspense.
Alors, donc je remercie ces deux personnes en premier lieu, parce que je pense que je m'inspire de cette histoire. Mais la ressemblance s'arrête là, tout simplement. Un japonais, un musicien japonais à Paris, il est tombé amoureux d'une française. La française portait un enfant au moment de leur séparation, etc. Et alors, pour que j'ai envie de construire un Reine de cœur, il a fallu donc quelques autres éléments qui sont venus plus tard, mais beaucoup plus tard. Le premier élément, c'est la découverte de la 8e symphonie de Chostakovitch en janvier 2019. Après, j'avais accompagné Anne Brisé pendant 4 mois et demi. J'étais rentré à la fin du mois de novembre 2019. Donc c'est en janvier 2020 que j'ai découvert, tout à fait par hasard, la 8e symphonie de Shostakovich. Par hasard, oui, pas tout à fait, parce que je voulais découvrir ce musicien. Et voilà, le hasard a fait que je découvre d'abord la 8e symphonie de Shostakovich. Et ça a été une sorte de sidération, une fascination. J'ai été vraiment bouleversé par cette musique qui parle de la guerre, qui dit la guerre. C'est une symphonie qui a été composée en 1943.
Par un grand résistant.
Par un
homme qui est d'une famille de grands résistants.
C'est
aussi.
Ça, oui, oui. Et qui souffrait de la guerre. Et qui, et en plus, il a mis que 2 mois pour composer cette symphonie qui dure 70 minutes. Ça, c'est donc un élément important, parce que dans Reine de cœur, c'est un peu l'objectif pour moi de parler de cette musique.
C'est un personnage de votre livre. Oui. La 8e symphonie de Shostakovich est presque un personnage de votre histoire.
Oui, je savais que je me dirigeais vers un concert final où j'écouterais avec mon lecteur, à côté de mon personnage, un autre personnage important qui s'appelle Otto Hikau, qui est devenu écrivain, je serais à côté de lui dans la grande salle du théâtre des Champs-Élysées pour écouter cette symphonie. Bon, ça c'est donc un premier élément important. Un deuxième élément, c'est la lecture du roman de Murakami Haruki, Le meurtre du commandeur. Et j'ai été fasciné par ce roman. Pourquoi ça m'a parlé? Parce que c'est le titre. Je ne suis pas un fanatique de Murakami. Mais le titre, le meurtre du commandeur, c'est Don Giovanni. Et comme je suis un admirateur, inconditionnel et sans borne des opéras de Mozart, je voulais savoir de quoi s'agit-il dans ce roman, Le meurtre du commandeur. Et dans la deuxième partie de ce roman, il y a un passage dans lequel il y a un jeune étudiant musicien, futur compositeur, qui est envoyé en Chine et qui est fait pour faire de la musique, qui n'est pas fait pour faire la guerre. Et on l'oblige à décapiter un prisonnier chinois. Il y a une scène comme ça dans ce roman de Murakami. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai pas pu m'empêcher de penser à La condition de l'homme de Kobayashi Masaki. Et par la même occasion, j'ai pensé à mon père. Donc, la 8e symphonie de Shostakovich, Murakami, le roman de Murakami qui m'a renvoyé à La condition de l'homme, à la fois au roman de Gomikawa Junpei et au film de Kobayashi Masaki. Puis, au souvenir de mon père, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Quand ces éléments-là ont été mis en place, j'ai retrouvé l'histoire de Daniel Laridan et ce Miko Kurata. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un musicien japonais présent à Paris comme étudiant et qui tombe amoureux d'une française et qui laisse un enfant en France et qui rentre au Japon et qui a un autre enfant avec une japonaise.
Et alors,
la ressemblance s'arrête là.
La ressemblance s'arrête là. Oui. Dans ce livre, il y a des échos très forts.
Oui.
Alors, par exemple, vous parlez beaucoup du rescrit impérial,
oui.
De ce texte qui est en fait finalement une vision de l'empereur comme une divinité,
oui.
Qu'il faut respecter.
Oui.
Mais il s'agit d'un écrit.
Oui.
Et on ne peut pas s'empêcher de voir aussi dans votre écriture, dans ce livre, parce qu'il y a des passages qui sont très engagés,
oui.
Dans votre écriture,
oui.
Un écho pour écrire autrement la guerre.
Oui.
Est-ce que je me trompe?
Je ne sais pas.
À quoi sert la littérature dans ces cas-là pour vous?
Pour moi, le but final, ce que je voulais faire, c'était de raconter une grande histoire d'amour.
Pas seulement.
Pas seulement, mais en partant de cet arrière-fond qui est présent de façon permanente au fond de moi-même, c'est cette guerre-là.
Dans vos écrits, il y a toujours une part dramatique qui peut être romantique, j'entends. Mais en même temps, vous citez des moments, si vous me permettez, il y a un extrait, par exemple, qui est d'une grande force. Vous dites, c'est ainsi que commença à l'automne 1939 l'interminable voyage de retour de Jun Mizukami vers son pays natal, un pays en proie à la folie belliciste, au désir d'expansion coloniale, à la politique fanatique d'un État militarisé obligeant tout un chacun à suivre corps et âme la voie des sujets désignés par l'empereur, forçant ainsi toute raison et tout esprit critique à s'effacer, à se taire complètement et durablement. C'est pas que romantique, quand même.
Mais c'est ma conviction, je suis persuadé de cela.
Vous êtes un auteur engagé en même temps. À quoi est-ce que votre littérature vous sert aussi à cet engagement? Quelle est la force de l'artiste, puisque dans ce livre, vous faites la part belle à la musique, Eric Shostakovich, comme dans Âme brisée, à la littérature, puisque vous parlez d'un écrit qu'il faut, enfin, que vous invitez à contredire quand même, et on comprend pourquoi. Votre travail est aussi un travail qui replace l'artiste à un endroit d'engagement.
Oui, je ne cache pas cette réalité odieuse, ignoble. D'autant plus qu'on a tendance à l'oublier de nos jours, et même à la cacher volontairement. Cela dit, ce que j'aimerais faire, c'est de mettre en avant la puissance de l'art, la puissance de la littérature peut-être, et la puissance d'une certaine forme d'humanité qui résiste à ça.
Et qui disparaît quand on récite la guerre à l'école, dans les livres d'art, qui ne devient que des chiffres et des mots, qui manquent quoi, d'humanité, de vraies histoires, de générations impactées, que vous voulez rendre plus humaines, plus accessibles?
Est-ce que ça devient plus accessible de cette façon-là?
En tout cas, on a la sensation que vous vous efforcez de nous faire saisir,
oui.
Le drame qu'ont vécu ces familles.
D'une part, D'un côté, j'ai envie de décrire cette réalité odieuse qui met à l'épreuve tous les hommes qui ont vécu à cette époque-là. Et c'était... Il y avait plusieurs attitudes possibles. C'est épouser cette cause nationale corps et âme, ce qui a été l'attitude d'un très grand nombre de Japonais de l'époque. Mais il y avait quelques exceptions. Je sais qu'il y avait quelques exceptions. Et quelques exceptions qui ont su résister, qui ont su s'opposer à cette folie ambiante. Et je pense que mon père faisait partie de cette minorité-là. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de rendre hommage à ces gens-là qui ont su garder toute leur lucidité dans des conditions effroyablement difficiles. Tellement effroyables, tellement difficiles que, par exemple, mon personnage principal, Jun, est devenu fou et il s'est donné la mort. Même dans cette situation extrême, il y avait des gens qui savaient garder toute leur lucidité, et j'ai vraiment envie de rendre hommage à ces gens-là, et j'ai vraiment envie de... d'avoir une force d'âme aussi puissante que la leur, si une situation difficile comme celle-ci arrive. Voilà, je vis dans une sorte d'appréhension. Le monde ne va pas bien, hein, en ce moment.
On peut dire ça.
Voilà, donc le...
Ça rend votre écriture absolument bouleversante. Pourquoi est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre un livre dans le livre ?
Ah ! Parce que je crois que c'est un peu comme dans Un brisé. La musique et la littérature, ce sont mes deux préférences, finalement. La musique est très fortement présente dans Un brisé, mais la littérature n'est pas oubliée. Dès l'ouverture de ce roman, le petit garçon qui est le personnage principal, qui s'appelle Ray, dont je raconte la vie, il est plongé dans la lecture d'un livre qui est... qui deviendra extrêmement important pour lui, puisque ce livre l'accompagne tout au long de sa vie. Et il est tellement important qu'il finit par le traduire en français. Et il dit que dans ce livre, il entend la voix de son père. Donc, la musique et la littérature. Et dans Reine de cœur, je crois que je cherche un dispositif, je crois, qui me permet de parler à la fois de la musique, de la littérature. C'est vrai que c'est par le truchement d'un livre qui s'intitule « L'œil écoute, l'oreille voit », qui est écrit, c'est un livre imaginaire, qui est écrit par le personnage masculin japonais. Et c'est ce livre qui permet à ces deux personnages importants de se rencontrer.
Ça n'est pas sans faire écho à la musique.
Ce n'est pas
sans faire écho à la musique, rien que par son titre.
Bien sûr, oui. Parce que l'œil écoute et l'oreille voit, c'est ce que le personnage principal, John, expérimente quand il découvre la 8e symphonie de Shostakovich, quand il vit des scènes atroces, un peu comme le personnage de Murakami, quand on le force à décapiter un prisonnier chinois, il entend brusquement des notes de musique, qui sont celles de la 8e de Shostakovich. Quand il voit quelque chose, une scène insoutenable, il entend, comme c'est un musicien, il entend un passage ou des passages de la 8e de Shostakovich. Et en même temps, quand il écoute, quand lui-même, et plus tard, quand celui qui a écrit, Otto Hikko, qui a écrit ce livre, l'œil écoute et l'oreille voit, quand il écoute ce japonais qui est devenu écrivain en français, quand il écoute la symphonie de Shostakovich, il voit des scènes atroces. Il retrouve les scènes atroces qui sont décrites dans le carnet de son grand-père. Donc la musique et la littérature sont très intimement liées. Et je ne peux pas faire autrement.
C'est ça qui est sacré pour vous, parce que dans votre livre, on voit bien que vous accordez une place majestueuse à la musique, à l'art, et que cet effet est souligné par le fait que votre histoire se passe dans un univers dans lequel la majesté est un empereur. Et donc, il y a une sorte de résonance entre la mise en scène parfaitement sacrée de l'exécution sans qu'il n'y ait aucun respect de la nature humaine. Bien, vous jouez toujours quand même à nouveau dans ce livre sur ce qui est faussement sacré ou insacré mal placé, ou ce qui est une majesté oubliée pour une majesté qui en fait devient simplement un pur esprit autoritaire. Qu'est-ce qui est sacré pour vous?
Je suis content de vous entendre dire ça. Il y a d'un côté une majesté sacrée qui est celle de l'empereur dans ce livre et qui est décrite telle quelle, mais tout se passe comme si cette fausse majesté était remplacée dans la progression du récit par une autre majesté qui est représentée par la musique.
Tout à fait. Enfin, je l'ai lu comme ça.
Vous avez raison de lire comme ça.
Je vous remercie. Ça me fait plaisir.
Je crois qu'on peut lire comme ça aussi.
Oui. Et donc, c'est une façon de remettre quelque chose d'essentiel au cœur de cette histoire aussi, de cette histoire que vous racontez, mais de cette histoire qui est une histoire, qui est l'histoire avec un grand H, et qui rejoint vos écrits, c'est-à-dire les plus faibles sont maltraités, il n'y a pas d'attention à l'artiste, comme il n'y en a pas aux animaux, comme il n'y en a pas aux hommes, qui n'incarnent pas cette virilité décrite comme vous le faites de ce bourreau qui est dans une mise en scène parfaitement factice. Qu'est-ce qui est le plus sacré pour vous, l'artiste?
Ah. « En tout cas, la notion de sacré... alors, je suis un homme sans religion, donc ce n'est certainement pas quelque chose de religieux chez moi. Et de nouveau, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père, qui était également un homme sans religion. Et à cause de la situation de sa famille, qui vivait dans une très grande misère, quand il était tout petit, quand il avait 11 ans, 12 ans, il a été envoyé dans un temple bouddhique. Et c'était une manière pour ses parents de ne pas s'occuper de la survie de mon père. Et il a passé quelques 2 ou 3 ans, je crois, dans l'équivalent du séminaire, si vous voulez, en temple ou un petit garçon apprend à devenir bonze, je crois. Et il n'a pas aimé du tout cette vie-là. Et surtout, il a vu des choses qui l'ont scandalisé, je crois, très durablement. Et donc, un jour, au bout de quelques temps, il s'est enfui de ce temple à la faveur de la nuit. Et il a toujours détesté les bonzes. Tellement détesté que il nous a toujours dit, pour mes obsèques, surtout pas de bonzes. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible à ce que j'appellerais le sacré, peut-être le sacré de la prière, une prière. Dans mes livres, souvent, il y a des, par moments, des gens prient, font une prière, quelque chose qui monte du plus profond de son cœur, à son insu, en quelque sorte. C'est ça. Et le sacré, c'est peut-être ça, quelque chose qui est une émotion forte, immaîtrisable, qui monte comme ça jusqu'à la tête. Et je pense à ça parce que mon père, qui était un homme sans religion, il aimait particulièrement un tableau de Jean-François Millet qui s'appelle l'Angélus. Et il adorait tellement ce tableau que dans la salle de séjour de la maison, une reproduction de ce tableau, dimension réelle, était accrochée. Mon père était ce genre d'homme. Il était extrêmement sensible au sacré qui se dégageait de ce tableau. Et ce tableau met en scène un couple de paysans qui prie. Et voilà, peut-être...
Le sacré pourrait être la sensibilité, alors.
Oui.
Et pourquoi...
C'est pour ça que je... Je crois que je cite l'Angélus de ce tableau à un moment donné dans Reine de cœur.
Voilà. Il y a beaucoup de citations de références culturelles,
oui,
dans ce livre. pourquoi écrivez-vous en français? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas écrire en japonais?
Ah.
Je ne voudrais pas que ça
je
vous provoque
que
une
cette question viendrait. Ah. Alors, pourquoi j'écris en français? Ça fait... Moi, j'ai toujours écrit en français. Je suis prof de français. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans. Depuis ce début de mon entrée dans la langue française, j'ai toujours écrit en français.
Mais là,
pour moi-même.
Mais là, vous racontez des choses qui
oui,
sont
oui, bien sûr.
Liées à votre histoire.
Oui, oui.
D'homme
oui, oui.
japonais, de votre
oui.
père.
Oui, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, je crois que... Bon... c'est un peu long à expliquer, mais
on a le temps.
Dans une langue venue d'ailleurs, je dis que j'étais pas bien dans ma langue maternelle. J'étais en guerre en quelque sorte contre ma langue maternelle, qui me paraissait extrêmement formatée, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ajouterais quelque chose d'autre à cette à ce sentiment que j'avais réellement à l'âge de 17 ans, 18 ans. Reine de cœur, c'est mon septième livre. Ça fait 10 ans que je publie en français. Avant, j'écrivais en français, comme j'étais prof, j'écrivais pour moi-même, j'écrivais des articles pour le monde académique, mais j'écrivais pour moi-même, mais sans la moindre pensée de publier un jour chez Gallimard. Mais pourquoi je continue à écrire en français? J'aurais pu m'arrêter avec une langue venue d'ailleurs. Une langue venue d'ailleurs, c'était une incitation de la part de J.B. Pontalis, mon éditeur, mon premier éditeur, qui, ayant appris mon parcours linguistique au Japon, dans un pays extrêmement éloigné géographiquement et culturellement, de la France, il m'a incité à écrire sur mon rapport à la langue française. Donc c'était une sorte de commande. J'ai essayé de répondre à cette incitation amicale et sympathique. Donc ça a été fait, ça a été publié en janvier 2011. Et j'aurais pu m'arrêter là. Mais je ne me suis pas arrêté là. Et il y a plusieurs raisons. Il y a un élément extrêmement important pour moi, c'est la catastrophe de Fukushima. Alors, une langue venue d'ailleurs a été publiée en janvier 2011. J'étais prof et donc j'avais des cours jusqu'en février, jusqu'en début mars. Et je suis venu en France le 11 mars, le jour de la catastrophe. J'ai appris la catastrophe en arrivant à Roissy. Bon, après, j'ai vu comment ça se passait au Japon et la réaction des Japonais, la réaction des autorités politiques par rapport à ce qui s'est passé... etc. Voilà. J'ai eu envie de m'éloigner un peu de ce pays en observant la réaction à la fois des Japonais et des autorités politiques. Bon, ça, c'est un élément non négligeable. Et à ceci, j'ajouterai une autre chose aujourd'hui, c'est que, comment dire, écrire en français, vivre en français, se comporter, peut-être on peut généraliser, essayer de se comporter dans une langue étrangère, dans une langue qui n'est pas la sienne. Essayer de vivre dans une langue qui n'est pas la sienne. Essayer de sentir, de penser et de vivre, etc., dans une langue qui n'est pas la sienne, originellement. C'est faire l'expérience d'une grande liberté. Parce que, c'est ce que je dis au début ou à la fin d'un petit livre que j'ai écrit chez Gallimard, qui s'intitule « Petit éloge de l'errance ». Je n'ai pas choisi ma nationalité, je n'ai pas choisi mon lieu de naissance, je n'ai pas choisi mon époque, je n'ai pas choisi ma langue, je n'ai pas choisi mes parents. Tout ça, ça m'a été donné. Je n'ai pas eu la possibilité de choisir un lieu de naissance, une époque pour naître, tout ça. Donc, finalement, je me dis, mais je suis un être privé de liberté de façon cruelle. Je n'ai rien choisi du tout. Mais finalement, on peut choisir une langue. On peut décider de vivre dans une autre langue. Alors, j'ai tendance à penser de plus en plus que lire seulement la littérature de son pays, lire seulement la littérature de son époque, lire seulement dans sa langue maternelle, c'est accepter d'être une sorte d'esclave de ces conditions initiales qu'on n'a pas choisies. Alors, vivre dans votre langue, pour moi, c'est l'expérience d'une liberté qui me donne d'autres forces, qui me donne d'autres façons de sentir. Voilà. Voilà, je suis devenu accro. Je suis en français. Quand j'écris en français, ça me permet de construire des relations, des rapports entre les êtres d'une manière que je n'imagine sans doute pas en japonais. Je n'ai pas fait l'expérience. Quand j'écris un roman comme Reine de cœur, je l'écris d'un bout à l'autre en français. Je ne cherche pas à traduire en cours de chemin. Donc, je ne peux pas faire l'expérience d'autres possibilités de sensations, de sentiments, etc., en écrivant cette histoire. Mais je suis sûr que c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour moi.
Et dans ce livre, il y a une forme d'hommage à cette liberté que vous avez pour le français, l'univers du français. Déjà parce que June, comme vous le disiez, c'est une grande histoire d'amour franco-japonaise. Votre personnage, June, tombe amoureux d'une jeune femme française qui le lui rend bien. Vous avez épousé vous-même une Française. Oui. Votre livre s'intitule « Reine de cœur ».
Oui.
Votre personnage ne veut pas quitter Paris. Ce livre est aussi un hommage à cette liberté, non?
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. C'est ce qu'il y a de plus précieux, il me semble.
Merci beaucoup.
Je me mets à la place de un peu d'Otohiko, bien sûr. Celui qui écrit.
Il y a de vous dans ce personnage.
Ah oui, oui, il y a un peu de moi. Oui.
Un peu beaucoup.
Beaucoup, je ne sais pas. Mais le quand Otohiko, à l'âge de 18 ans, quand il découvre le journal de son grand-père, et à un moment donné, il y a une page, il découvre vers la fin du journal des pages qui sont écrites dans une langue qu'il ne comprend pas. Comme c'est un lycéen japonais, il fait de l'anglais, il comprend l'anglais, il sait que c'est pas de l'anglais, et il ne connaît pas la langue française à ce moment-là, mais il pense, il se doute que c'est du français, puisqu'il sait que son grand-père a passé quelques années, quand il était jeune, à Paris. Et voilà, c'est le désir d'apprendre le français est né à ce moment-là.
Tout en rendant un hommage précieux, en fait, à une famille, une transmission.
Oui, oui, oui. Donc là, je me projette un peu.
À peine.
Oui.
Merci beaucoup, Akira Mizubayashi.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi.